Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade, c'est la radio de celles et ceux qui ont envie de partager un moment de leur vie. Aujourd'hui, on accueille autour de la table du studio Paolo, Eliane, Elvio, Carlos, Cathy, Karine. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. Bonjour à nos complices Dominique et Julien à la technique. On reçoit cet après-midi une invitée et j'avoue que j'ai un petit peu le trac parce que la personne qui est autour de la table, eh bien, c'est une consoeur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle a découvert que le monde était vaste, qu'elle voulait du soleil, qu'elle était tête en l'air et parfois à côté de la plaque, qu'elle s'émerveillait en écoutant un passager et que les mots s'échappaient de son porte-plume. Bonjour Manuel Amoury.
Oh, mais je suis honorée. Non, je suis même intimidée du coup. Hein. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire de la radio ?
C'est quand même, d'accord. Hein,
c'est quand même le plus beau des médias, non ?
J'ai évoqué toutes les émissions, je crois, sauf erreur, toutes les émissions radio et
oui.
télévisuelles que vous avez créées.
Il y avait Alice, c'est
ah ben, vous vous émerveillez.
Non, mais c'est vrai.
Animée pendant plus de 20 ans à la RTS.
Plus 26 ans.
26 ans de radio et de télévision. Ouais. Vous avez aussi à votre actif quelques livres et un festival dont on va parler, le Festival de la Correspondance. Merci, je le répète, merci de nous rejoindre autour de la table de Pavillon Nomade. J'ai une première question comme ça. Est-ce que vous connaissez l'endroit qui accueille tous les jeudis Pavillon Nomade ici à Malévaux ?
Alors le studio, je ne le connaissais pas. L'espace de Malévaux, je le connais. Le parc, les jardins. Je suis venue quelquefois rencontrer des êtres en fragilité, des gens qui étaient en difficulté pour un temps ou pour des plus longues périodes. Donc c'est un endroit que je connais. Mais je le connais plus du côté des visiteurs que du côté des praticiens. Puis du côté des artistes, j'avoue que là, c'est vraiment dommage parce que plein de fois on m'a dit mais vas-y c'est une expo de rêve etc et puis j'ai voilà c'est monté c'est un peu les Érinsards dès qu'on est remonté dans nos montagnes on a de la peine à en redescendre et un de mes grands amis artistes Dominique Studer je l'embête toujours un peu parce que je dis déjà aller jusqu'à Saint-Maurice ça fait déjà loin et monté c'est encore plus loin puis aujourd'hui quand j'étais avec ma sœur qui vit aux États-Unis on faisait ce trajet et je me disais mais en fait c'est juste à côté. Pourquoi
c'est la
on
n'y
vient pas plus
côté.
Mais bien sûr.
Pour moi qui viens de Lausanne et de Fribourg, c'est la porte à côté.
Absolument.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport aux expositions. Il y a actuellement deux expositions qu'il faut voir jusqu'au 21 septembre. Vous avez encore un tout petit peu de temps. Deux magnifiques expositions de deux artistes extraordinaires avec un univers. C'est ceux et celles qui l'ont vu peuvent en parler mieux que moi. Enfin, je l'ai vu aussi, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut voir. Si vous avez le temps après l'émission, allez voir ces expositions. Ici, tout le monde a la parole et peut partager ce dont il a envie. Et évidemment, vous pouvez poser des questions à Manuel Amoury. Libre à elle d'y répondre ou pas. Et libre à elle aussi de vous poser des questions. C'est un espace de liberté. Et je trouve que le mot liberté, c'est un mot qui vous va bien, Manuela.
Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, la liberté, c'est exigeant. C'est contraignant, souvent contraignant. Peut-être parce qu'on vient de quelque part où on doit quand même déjà s'émanciper de ce qu'on nous a appris pour pouvoir savoir à peu près qui on est et peut-être revendiquer un peu plus cette liberté ou cette nature. On est dans une société qui va de plus en plus vite. C'est donc de plus en plus compliqué de savoir qui on est. et puis, on est surtout noyé dans l'abrutissement. Quoi. On est tellement abruti. J'ai l'impression que le flow... Alors bon, bah voilà, moi, j'ai travaillé dans les médias. J'ai vu leur accélération comme vous, j'imagine, Marie-Claude. C'est vertigineux. Au point où j'ai presque du mal à écouter l'actualité. Par exemple, j'y renonce pour ma santé mentale. Mais vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui se mérite, la liberté, qui exige de nous de renoncer. Et que sans doute qu'on vit une époque où on ne renonce à rien. D'ailleurs, il faut tenter la question tout autour de vous. C'est passionnant, j'avais fait ça dans une émission de radio. C'est à quoi est-ce que tu serais d'accord de renoncer, mais qui compte pour toi ? Et les gens ont une peine folle à dire à quoi ils renonceraient. Ben, je vous pose la question. À quoi Eliane, vous seriez d'accord de renoncer ?
À ma voiture.
Que vous aimez beaucoup.
Qui me rend bien service, on va dire.
Donc du coup, vous seriez prêt à prendre le bus ou des baskets ?
Alors chez moi, il n'y a pas de bus. Donc je descendrai en autostop.
Ah bah continuons le tour de table, c'est intéressant.
Oui.
Paolo.
À quoi vous pourriez renoncer ?
Ça, c'est une difficile question.
Peut-être à quoi vous devez renoncer en étant ici ?
Aux valeurs matérielles. On s'attache trop aux valeurs matérielles, par exemple. Uh-huh. Et on devait se livrer un peu plus.
Mmh. Et si vous deviez renoncer à un objet, à une chose, ce serait laquelle ? La plus dure ?
Moi, je dirais la voiture aussi. C'est vrai. Parce qu'après, il y a le vélo, on peut marcher à pied, il y a les transports publics. Mmh. Et donc, on n'est pas à pied, quoi. Donc,
ouais. Voilà. Mais ça veut dire que la voiture, c'est la liberté, alors ?
Et d'un côté, oui.
Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Je sais pas.
Et vous, Carlos ?
Ouf.
C'est une grande et vaste question.
Ouais.
Et j'étais pas là.
Vous étiez où ?
Ici, mais ailleurs.
D'accord.
Et est-ce qu'il faisait beau ?
Non, bah, il fait mauvais, paraît-il.
Si.
Et puis ça va jusqu'à mardi. Alors.
Ah, voilà.
Ah, ben oui.
Oh là là.
C'est un peu triste. Quoi.
Ouais.
Mais bon, on va en vélo.
Ouais.
Ou bien dans le bus.
Ouais.
Et puis on arrête la voiture.
Mais par exemple, parce que j'imagine avec le prénom et le nom qui est le vôtre, que vous avez de l'hispanisme dans le son, est-ce que par exemple, quand vous êtes parti, l'Espagne, vous avez dû y renoncer ?
Moi, je ne suis pas espagnol. Hein.
Non, pas du tout ?
Non,
portugais ?
Portugais, brésilien.
Ouais. Ah, et brésilien.
Ouais. Ma mère brésilienne et mon père portugais.
Ouais. Et ça, par exemple, ces origines-là, en vivant en Suisse, vous avez dû y renoncer ou vous les portez dans le cœur ?
C'est le monde fou. Hein.
Ouais.
Le Brésil, s'il vient ici, c'est le monde fou.
Ouais.
Et puis, Portugal aussi, c'est rien comparable. Quoi. Mmh,
mmh.
Mais par contre, la Suisse, c'est un bon pays. Quoi.
Ouais.
Bon, moi, j'ai 48 ans de Suisse. Quoi. Je me sens toujours bien.
Ouais.
Et puis, je suis Suisse. Quoi.
Ouais. Ben oui. Et si vous deviez renoncer au voyage ?
Au voyage ?
Ouais. Ça vous arrive de retourner, soit au Brésil, soit au Portugal ?
Oui. Je viens de rentrer, ça fait 2 mois et demi.
Du Brésil ou du Portugal ?
Du Portugal.
Ouais.
Au Brésil, j'y vais moins souvent parce que la famille, ça se commence à perdre.
Ouais.
Et puis voilà, quoi. J'y vais moins à moins. Puis c'est un long voyage, quand même.
C'est loin, hein ?
Mais par contre, c'est un bon pays, quoi.
Oh oui.
Elvio, vous aviez envie de réagir par rapport à la liberté ou bien au fait de renoncer à quelque chose ?
Alors, bon, à renoncer, bon, je m'exprime. Moi, j'ai renoncé à ma voiture. Donc, du coup, pour des raisons, plein de raisons, mais surtout écologiques. Donc, j'aime bien les transports publics parce qu'il y a des échanges, parce qu'on fait des rencontres formidables. Enfin, c'est vraiment chouette. Et sinon, je voulais vous poser une question, Manuela.
Oui.
Cette liberté, en fait, vous l'avez depuis l'enfance. Vous avez toujours été quelqu'un d'indépendante.
C'est marrant parce qu'on a parlé de ça avec ma sœur cette semaine. Et en fait, moi, je vis quand même dans une communauté et une famille. Alors effectivement, je suis arrivée 9, 8 et 7 ans après mes sœurs. Et puis très rapidement, on est allé s'installer au restaurant familial. Donc je vivais dans un milieu plutôt d'adultes et dans un lieu de vie qui commençait tôt le matin, qui finissait tard le soir. Et je pense que ma liberté... et ça, d'ailleurs, je l'ai constaté quand on était en train de travailler pour l'être de soi, pour le festival. Mon père avait gardé toutes les cartes postales que les clients nous ont envoyées pendant, je ne sais pas, 30 ans, quoi. Et c'est des centaines de cartes postales. Et pour nous, c'était comme des fenêtres sur le monde parce qu'on voyageait à travers ces très, très, très nombreux étrangers qui venaient au restaurant. Ça nous donnait une ouverture sur le monde, une curiosité aussi des autres. Une diversité. Je pense qu'on a eu de la chance, d'ailleurs, de grandir sans doute dans une vallée assez fermée, dans un milieu peut-être assez conservateur par la base, mais comme toutes les montagnes du monde, par ailleurs. Et en même temps, avec cette espèce de restaurant qui nous ouvrait sur le monde, qui nous montrait que, voilà, ailleurs, on faisait autrement. Et que Du coup, je pense que ça m'a donné envie de les suivre. Et puis, c'est vrai que ma sœur, ben, Cathy, qui est là aujourd'hui avec moi, elle est partie très tôt, au d'abord à San Francisco, ensuite elle est repartie au Japon, ensuite en Angleterre, ensuite aux États-Unis, où finalement elle s'est mariée, et ça fait 30 ans qu'elle y est. Et pour moi, c'était comme un... Moi, je voulais faire tout comme elle, déjà. Elle avait vécu à Carouge, je voulais vivre à Carouge, et j'ai fini par vivre à Carouge, à Genève. Donc, il y avait, je pense, une... Mais je pense que cette liberté-là, c'était la fantaisie, c'était l'imagination. Et je me dis souvent que c'est peut-être la liberté la plus totale, qu'on soit par exemple ici, à Malévo, qu'on soit à la Radio du Sourmonde ou n'importe où ailleurs. Si on a l'imagination, je pense qu'on a une liberté que personne ne peut vraiment atteindre. Et à ce propos... Je pense que c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour mes nièces, pour leurs enfants, pour les enfants de leurs enfants. C'est à quel point ils sont conditionnés dans leur imaginaire. Alors que franchement, on voit un bébé, c'est simple, on lui donne un bout de papier, il se débrouille, quoi, il a besoin de rien. Je pense que nous, on a eu cette chance de grandir avec très très peu de choses matérielles. On avait très très peu de choses. Mais avec ce qu'on avait, on pouvait faire des... On pouvait, imaginer l'impossible. Et c'est probablement ça qui a nourri ensuite ma vie professionnelle.
Et donc, vous, avec vos sœurs, vous créiez des mondes, en fait. Vous jouiez, vous faisiez des jeux de rôle ensemble.
Avec Cathy, en fait, j'ai le droit de débrancher mon micro en faisant du bruit.
Tout est permis ici.
Non, avec Cathy, alors, ça, c'est un truc. Elle va tout de suite vous dire un truc qu'on faisait tous les dimanches soirs.
On écoutait. Comment ça s'appelait déjà ? Énigme et aventure.
D'accord.
On écoutait ça tous les dimanches soirs, c'est vrai. C'était notre petit traitement après avoir travaillé le week-end au restaurant. Mmh. Ouais. Mais aussi, on lisait beaucoup. Et je lisais à Manu beaucoup.
Mmh. Ouais. Chouette. Ouais. Donc, beaucoup de complicité entre vous.
Ouais. Ouais. Je l'ai persécutée quand elle a voulu partir. Je continue à le faire, d'ailleurs.
On va faire une petite pause musicale et lorsque l'on évoque le mot liberté, on pense aussi bien souvent au poème de Paul Éluard, écrit en 1942 au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai choisi une très belle et libre interprétation de Madeleine Peyrou.
Wow.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. J'écris. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté. Liberté.
Le texte de Paul Éluard et la voix de Madeleine Perroux viennent de résonner autour de la table de pavillon en nomade. Quel mot, ce mot liberté. À propos des mots, Manuela Mori, y en a-t-il un qui vous accompagne depuis toujours?
Très bizarrement, mais je vais vous dire un truc horrible. Hein. Quand j'étais petite, il y avait un mot que j'adorais prononcer qui était objet. Mais je ne sais pas pourquoi. Hein. J'aimais le côté arrondi. Je pense que j'aimais bien dessiner les O et les B. Et après, le J, c'était un... Voilà. Je pense qu'il y a plein de mots hein, qui m'accompagnent et qui sont clairement plus poétiques que l'objet de mon désir. Mais je pense que j'aimais bien la graphie des mots aussi. J'aimais bien le... Même si je pense que ma sœur, elle doit ricaner parce que j'étais très rétive à l'apprentissage. Mais très, très, très rétive. Je n'aimais pas aller à l'école. Et d'ailleurs, chaque rentrée scolaire, je ressens encore la boule au ventre. Je me dis, mais non, mon Dieu, j'y retournerai pour rien au monde, quoi. Et je ne sais pas, il y a plein de mots. Mais je pense que là, comme ça, en plus, en pleine période d'avant-festival... Je passe ma vie à malaxer ces mots, à les triturer, à les déplacer, à les réorganiser, à les mettre dans tous les sens. Je sais pas, il y en a pas un qui reviendrait comme ça. Peut-être comme ça. Allez, maman.
Maman.
Ouais, maman. Voilà.
Et vous, autour de la table, y a-t-il un mot qui vous accompagne? Paolo, Carlos. Karine ?
Oui, moi j'ai un mot qui m'accompagne. C'est pas forcément très positif non plus, je suis désolée. C'est le lâcher prise que je n'arrive pas à avoir et le mot culpabilité.
Ah ouais, ouais. Ça je connais bien aussi. Hein. Mais ça alors, ça marche au bout d'un moment, ça diminue, ça sèche comme les raisins secs. Et puis à la fin, on peut les cracher comme les noyaux. Mais il faut y travailler un peu, ouais. Ouais.
Ouais.
Ouais, 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 ouais.
Ça peut être difficile, par contre, c'est en lien avec la famille, justement.
Oui, mais c'est toujours en lien. Mais ça nous appartient quand même.
Oui, on est d'accord.
Ouais.
Ça nous appartient quand même.
Ouais, ouais.
On y croit, on va avancer.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Carlos ?
Le mot que je dois dire, c'est felicidad.
Oh, c'est tellement beau.
C'est ça que j'ai à dire.
Ouais.
C'est magnifique.
Tous les matins, ouais, félicitations.
Oh. Tous les matins.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Vous vous réveillez avec ce mot.
Je ne me réveille pas avec ce mot, mais je dis félicitations.
Il faut le dire.
Ouais.
Bah, Carlos, le festival, c'est le festival de la joie cette année. C'est l'être de joie. C'est fou, hein?
C'est fou.
Ouais, ouais.
Alors, félicitations.
Il est beau dans toutes les langues, ce mot.
Oui, c'est vrai.
Paolo?
Moi, ça serait le partage.
Oh, waouh.
Partager tout ce qu'on a de bon avec les autres. Et partage, tout simplement.
Oui. Et Marie-Claude, Marie-Claude, elle n'a rien dit à part ça. Hein.
Non, Marie-Claude, elle pose des questions. Eliane?
Je dirais l'amitié.
Ouais. Et Cathy?
Et Cathy?
Moi, j'ai un peu honte.
In English?
Non, non, c'est pas en anglais, mais c'est le mot ragusa. c'est un mot qui me trotte dans la tête, chez moi, aux États-Unis. Et quand j'arrive ici, j'en reçois.
Ouais, toute la famille arrive. Mais je dois dire les cache en plus. Hein.
Je les cache, et en fait, j'en ai reçu un ce matin, et je l'ai caché. Et je sais pas, vous avez dit un mot, et j'ai vu mon ragusa. Alors. Par rapport à vos mots.
Mais non, mais c'est un mot.
Oui, bah voilà, partage. Mais. Moi, ouais, j'essayerai de partager. Ouais.
C'est magnifique. Mais vous, est-ce que vous savez où vous l'avez caché?
Oui, oui, oui.
J'ai... Ah
oui.
Ouf.
Vous les retrouvez?
J'espère. Oui. Ouais. C'est comme les écureuils, là. Je les mets un peu partout.
On a des, vous l'avez déjà évoqué, Manuela, ce festival que l'on retrouve les 19, 20 et 21 septembre à Maz. Comment est né ce festival? Vous nous racontez en quelques mots?
Oui, alors le nom du festival, il est né du vivant de mon papa. Lettre de soi, c'est en fait un échange de correspondance que j'ai fait dans le temps. Je ne me souviens plus, 2004, 2005, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là, début de 2004-2005, je dirais, peut-être 2006. Et puis, c'est Eric Osley, qui était le rédacteur en chef à l'époque, qui me dit qu'il me donnait une carte blanche, ce qui était quand même un luxe incroyable. Et puis, papa souhaitait que je capture la voix de ma grand-maman et surtout sa mémoire. Et ma grand-maman mourit, grand-maman Angeline, n'a jamais accepté que je l'enregistre. Elle était un peu comme en Afrique, j'ai vécu ça plusieurs fois en Afrique. Ils étaient d'accord qu'on prenne des notes, qu'on discute, et surtout qu'on essaye de figer ça dans notre propre mémoire. Mais elle refusait que je lui pique sa voix, quoi, quelque part. Ce qui est assez beau quand on y réfléchit. Et du coup, je suis rentrée à la maison un peu bredouille, et j'ai dit à papa, un peu sur un coup de tête, « Mais toi, tu serais d'accord de raconter des bouts de ton enfance, et je te raconte aussi la mienne. » Et ce qui s'est passé, c'est tellement extraordinaire. Déjà parce que je crois que papa, qui est né en 1935, dans une vallée latérale qui se développait tranquillement. Ensuite, évidemment, il y a eu l'arrivée des barrages. Mais là, j'ai terminé l'année passée un documentaire au Népal. Ça ressemble beaucoup au Népal, si, pour ceux qui ont la chance de voyager ou de voir du documentaire sur ces vallées. Je crois que papa et maman ont vécu vraiment dans ce contexte-là. Une vie dans l'autonomie, dans la responsabilité, dans la communauté, surtout. Et puis, il avait très envie de témoigner de ce temps-là qui était en train de disparaître sous nos yeux. Et de mon côté, je voulais un petit peu parader avec ma vie en ville, Genève, le Japon, mes grands voyages, mes documentaires pour Passepain les jumelles. Je me la pétais un peu. Quand je relis ça, d'ailleurs, je me dis qu'il y avait quand même beaucoup de coquetterie. Moi, je sentais qu'on allait me publier, alors que mon père, il était dans un geste pur. Hein. Il était dans une vraie correspondance. Il n'a même pas lu. Il s'en fichait, lui, des journaux. Ce qu'il voulait, c'était témoigner d'un temps. Et donc, à sa disparition en 2016, le 24 août 2016, je me suis dit, j'aimerais bien faire ricocher cette chance qu'on a eue de se parler, d'échanger autour de moi. Donc, on voulait faire une édition, au fond. On s'était dit, et on s'était mis ensemble. Je me rappelle que j'avais rapatrié ma sœur des États-Unis pour... venir en aide. On se disait, ouais, entre 500 et 600 personnes dans un village donc de 222 habitants à l'époque. Et on s'était dit, si on gagne 800 francs avec le petit comité qui était le mien, évidemment, on travaille gratos, le festival était gratos, on va à Paris et on fait un truc vraiment pour se faire plaisir. On avait un endroit très précis où on voulait aller. Et dès la première année, on a fait presque 2000, 2500 personnes avec un étonnement. Je pense que ça nous a autant étonnés que ça a étonné les médias, les pouvoirs publics, Mais par contre, ça a répondu à une, peut-être à une question que chacun se pose. Comment faire, au fond, pour garder la mémoire ? Comment faire pour la transmettre ? Pour qu'on arrête de nous la voler ? Comment faire pour ralentir, pour arrêter le temps ? Comment faire pour rentrer de nouveau dans l'attente ? L'attente d'un courrier, l'attente d'une réponse, et pas forcément celle qu'on a envie. Et ce que je dis toujours, c'est la correspondance, c'est ce qu'on fait très simplement quand on est enfant. On écrit des petits machins de culpabilité à nos parents, pardon d'avoir commencé à fumer, pardon d'avoir menti et de ne pas être allé au cours ou je ne sais quoi. Mais on écrit, souvent on date, souvent on signe, avec une simplicité déconcertante. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête à un moment donné ? Mais là, maintenant, il y a pire. Puisque maintenant, on a même des outils pour qu'écrivent à notre place. Et pour avoir reçu un courrier écrit par ChatGPT, il se reconnaîtra. C'est vraiment d'une telle violence. C'est terrifiant parce qu'on se rend bien compte que tout à coup, on a démissionné jusqu'au dernier stade de notre autonomie. Et l'écriture à la main, c'est notre dernière absolue liberté. Les services secrets, c'est ce qu'ils utilisent. C'est fou qu'on ait renoncé à ça. Je trouve ça dingue. Et tout ça pour dire que maintenant, ça va faire 9 ans qu'on fait ce festival. Voilà, ouais.
Et vous l'avez dit cette année, lettre de soi, laisse tomber le S pour le J.
Ouais.
Et donc, fait la place à lettre de joie. Celles et ceux qui auront la chance de pouvoir venir à Maz auront également l'occasion de vous voir, de vous entendre, Manuel Amaury, notamment dans un spectacle épistolaire intitulé Les filles de joie. Quel programme.
Puis des fois, on en rajoute encore un petit peu. On dit les filles de joie à la cuisse légère.
Ah oui, ah oui.
Voilà. Et on fait rêver un peu. Vous voyez, on a 60, 50, 40 et 30 ans. Donc souvent, avec Romaine, on dit on fait rêver avec ce qu'on a à cet âge-là. Et puis, Romaine, donc, est une magnifique interprète, multi-instrumentiste, qui a longtemps enseigné au conservatoire, qui représente donc justement cette soixantaine extraordinaire. J'incarne la cinquantaine. Il y a une Frida qui s'est glissée là-dedans, qui vient de Beyrouth, où on était censé partir avant que quelques bombes nous tombent sur la tête, enfin, leur tombent surtout sur leur tête. Et puis, qui est une chanteuse aussi, interprète, qui va pouvoir glisser aussi sa langue maternelle, son arabe qui vient du ventre, et son combat aussi pour s'affranchir de sa culpabilité. Et elle y est parvenue, je pense qu'il faut que vous veniez au festival, Karine. Et enfin, Forma, qui est cette Priscilla de rêve, qui est une humoriste, chanteuse et multi-instrumentiste. C'est vraiment des filles de... Et ça fait une année qu'on s'écrit, une année qu'on partage, une année qu'on s'envoie du WhatsApp à la... Et c'est ça aussi qui est assez extraordinaire quand on arrive à tenir une correspondance sur autant de temps. C'est que déjà, on traverse les saisons ensemble. Et on n'est pas du tout dans l'immédiat. C'est-à-dire que, parce que même si on a utilisé le WhatsApp, on a utilisé des fois des mails, c'est aussi un spectacle. Et moi, je dis aux gens, mais allez-y, utilisez WhatsApp, mail, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que quand on s'accroche à la matière, quand on revient à la matière, on revient au réel. Et bizarrement, on n'écrit pas les mêmes choses. Quand on les écrit à la main, nous, on s'est beaucoup, beaucoup écrit avec ma sœur, on a gardé toutes nos lettres. On a pu se replonger dedans, les relire. Tout récemment, j'étais tombée dans une boîte de maman d'une lettre qu'elle avait écrite quand je me souviens plus si c'était au Japon ou aux États-Unis. Et puis, quand je lui ai relu la lettre, elle avait complètement oublié qu'elle avait pu dire ça. Je défie quiconque de la génération actuelle de retrouver dans le cloud quelque chose qu'il a écrit quand il avait 15, 16, 17. Et pourtant, les histoires d'amour, c'est les mêmes. On continue à tomber amoureux, à vouloir citer Éluard en pleine nuit. On continue à faire ça, si ce n'est qu'on n'a plus, on n'a plus de traces de rien, quoi. On est en train de s'auto-effacer. On est en train de se diluer, quoi, en fait. Mais peut-être que c'est nécessaire, hein. Les arbres s'en réjouiront.
Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on peut peut-être partager autour de la table. Est-ce qu'on est en train de s'auto-diluer, Karine ?
Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec Manuela. Typiquement, quand je tenais un journal intime de l'époque, je l'ai gardé, je suis retombée dessus, je l'ai relu. Et en fait, j'ai plusieurs cahiers comme ça. Et honnêtement, le manuscrit, en effet, se perd, que ce soit pour chercher un travail ou autre. Tout se fait par ordinateur. Je ne peux rien dire, j'ai WhatsApp aussi. Mais par contre, si je dois acheter un livre, je préfère le papier. Je préfère sentir la matière. Mm-hmm. J'aime pas les e-books. Voilà. C'est pas mon truc. Il ouais. faut vraiment... J'achète des gros livres et je veux du papier. Mm-hmm. Mm-hmm. Je sais pas comment expliquer, en fait. C'est
oui, la matière. C'est le rapport à la matière.
C'est la matière.
Au réel. Voilà. Ouais.
Exactement.
Et c'est quand la dernière fois que vous avez écrit une lettre ou une carte postale? La toute dernière fois. Ah bah ça date, hein.
Carte postale, non, je suis pas très carte postale, en fait.
Ok. Et lettre?
Parce que je voyage pas tellement. Et du coup, lettre, c'est de mon journal intime, ouais, en effet.
Mais ça, c'est pas pareil. Alors ça, c'est bien que vous en parliez, parce que quand les gens parlent de mon festival, enfin de notre festival, parce qu'on est vraiment nombreux là autour, ils disent « mais alors, c'est votre truc de littérature ou c'est votre truc de poésie ?» Non, 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 la correspondance, c'est une définition très, très, très claire. Il faut être minimum deux. Autrement, précisément, ça s'appelle un journal intime ou un carnet de voyage, qui sont tout aussi fantastiques hein, comme objet, et j'encourage chacun. Mais la correspondance, c'est vraiment s'adresser à l'autre. Et attendre une réponse.
Mmh. Par contre, j'utilise toujours la plume parce que je trouve que ça est encore magnifique. Je suis revenue à la plume.
Elvio.
Oui, alors j'aimerais juste rajouter parce que Karim, c'est mon ami, ma chérie, et on s'écrit toujours des petits mots. Donc souvent le matin quand je pars au travail, je lui laisse un petit mot.
Oui.
Des petits post-it. Ouais. Bon, ce matin, c'était une feuille A4.
Alors, petit conseil pour ceux qui font ça. Oui. Parce qu'avant, ça se faisait presque de façon automatique. Et mettez une date. Mettez une date. C'est une manière quand même d'arrêter un peu le temps. Je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Oui.
J'avais envie de me tourner vers Eliane par rapport à l'écriture, par rapport aux lettres.
J'écris tous les jours.
À la main ?
À la plume, effectivement. Et c'est surtout des lettres à moi-même.
Ah. Et est-ce qu'elle vous répond, vous-même ?
Hélas, pas.
Alors, peut-être que vous devriez essayer de trouver un correspondant. Ça existe, hein, y a des gens qui se mettent à disposition pour rentrer en lien avec d'autres. Et il y a des échanges épistolaires qui sont nés dans le festival avec des gens qui ne se connaissaient absolument pas. Et ce qui est formidable avec l'autre main, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à anticiper ce qui pourrait être dit. Si vous vous écrivez à vous-même et que vous êtes, par exemple, dans un moment de culpabilité, il risque d'avoir la petite fille meurtrie ou celle qui a vécu quelque chose qui va vous répondre. Mais ça reste quand même toujours quelque chose que vous arrivez plus ou moins à situer. Hein.
Absolument.
Voilà. Alors, ça peut révéler des choses formidables. Hein. C'est un bon exercice thérapeutique aussi. Par contre, si vous laissez la main à l'autre, ça veut dire si vous donnez le pouvoir à l'autre de vous répondre, déjà, il y a la surprise de ce qu'il va vous dire. Ensuite, si avec un peu de chance, il a une jolie écriture, ça va vous émerveiller de voir cette présence humaine avec peut-être quelques taches de confiture ou je ne sais quoi qui rend les choses très, très réelles. Et puis ensuite, je pense que ça donne parfois envie d'y répondre. On a un poète qui s'appelle Pierre-André Milite qui a fait qui a écrit aux tombes du village, qui a écrit aux 100... Tu te rappelles du chiffre ? 62, je ne me rappelle plus. Il est venu en résidence et il écrit à toutes les tombes du village, mais en hommage aux vivants. C'était vraiment un truc assez incroyable. Et lui, il a commencé à écrire à un comédien qui s'appelle Jean-Luc Farquet. Ils s'écrivent depuis 17 ans, tenez-vous bien, tous les lundis que Dieu fait.
Ça fait extraordinaire.
17 ans qu'ils s'écrivent extrêmement. Eh bien, Milite, il ne connaissait absolument pas M. Farquet. Un matin, il a dit, bah voilà, moi j'ai envie de vous écrire et j'espère que vous répondrez. Et ça fait 17 ans que ça dure.
Fantastique.
Comme quoi, Paolo ?
Alors, moi, de mon métier, donc, comme sanitaire,
ouais.
Et, ben, tous les jours, je vais faire le rapport avec le client.
Ouais.
Et des fois, j'avais 4-5 rapports. Et puis, le client, il devait signer. pardon. Et puis le soir, ben, je donnais ça au patron, mais c'est toujours manuel.
Ouais.
Donc actuellement, il y a les tablettes, etc.
Ouais, c'est vrai.
Mais moi, c'était toujours manuel. Donc je trouve que c'était bien ça.
Est-ce que vous avez récupéré des lettres de votre famille? Ou retrouvé même des lettres de la famille?
Peut-être chez mes parents, il y a encore des lettres comme ça. Ouais. Mais c'est au Portugal, voilà. Donc,
c'est ça, hein.
Ouais. Là, il y a sûrement.
Mais ça vaut la peine de demander de les mettre de côté. Nous, on essaie de les sauver, non pas comme pour cumuler des choses, hein, mais parce que cette trace... Je me souviens d'une fois, maman, on était au marché aux puces à Genève. Et puis, elle m'avait accompagnée. Puis, il y avait ces grandes boîtes avec des cartes postales écrites, avec des signatures et tout ça. Et elle disait, oh, mais comment les gens, ils ont pu jeter ça? C'était vraiment pour elle une... Mais on ne peut pas jeter quelqu'un qui a envoyé ces mots. Et si vous tombez sur de la correspondance, que vous avez l'intention de la mettre à la poubelle, eh bien, sachez qu'Amaz, nous avons sauvé une maison. Hein, il faudra que vous veniez la voir, puisque vous connaissez le village, en plus. Hein, c'est la grange qui n'est pas très loin du moulin. Et dans cette grange, les correspondances, avant que vous les mettiez à la poubelle, vous nous les amenez, on voit s'il y a une possibilité de les sauver. Ensuite, on les met à disposition dans cet espace, voilà, pour garder trace et les soumettre aussi à des artistes qui pourront, en résidence, leur redonner vie. Voilà.
Mm-hmm. Oui, Eliane.
Manuela, quel plaisir aujourd'hui de vous accueillir en vrai et de près.
Oh, merci. Merci.
Parce qu'avec avec la télévision, c'est pas pareil quand même. Hein? Alors, vos commentaires lors de la finale de la race des reins à Apro avec vos deux compères.
Absolument.
Votre spontanéité, rire et bienveillance me manqueront énormément.
Oh, mais vous voyez, je suis venue jusqu'à vous.
C'est parfait.
Je ne vais pas vous manquer, je vais...
Vous allez revenir.
Je vais revenir,
d'accord.
Voilà. Exactement, quoi.
Et la petite question.
Ouais.
Comment appelle-t-on les habitants de Maz?
Les Mazat. Mazat pergat tirafola budere detsat.
Il va falloir une traduction.
Je ne peux pas vous traduire ça, mais c'est terrifiant. Hein. Donc, c'est que les gens de Maz mangeaient les intestins des chats.
Mais non.
Et nous, les Maoris, on est la famille des chats. Et je vous rassure, toute ma famille est complètement raide dingue de chats. Voilà. Donc, voilà.
D'accord. On va un petit peu délayer ce sujet. Sur votre profil Facebook, Manuela, il est écrit notamment que vous êtes une rêveuse à plein temps.
Oui.
Ça consiste en quoi?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que chaque objet qui se déplace, je ne sais pas, par exemple, Eliane, elle vient déposer ses lunettes, déplacer. Moi, je vois le cordon jaune, je vois un nez et je vois... Enfin, pour moi, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire, je tourne la tête, je vois un truc. Des fois, c'est quand même un peu épuisant et c'est très épuisant pour les autres. Mais comme dirait ma sœur, elle dit « mais ce serait moins rigolo
». Une autre grande rêveuse, eh bien, c'est Françoise Hardy, qui s'est confiée au cours de 5 entretiens radiophoniques. On peut toujours les écouter sur le site de Radio France. Et dans un des épisodes, elle s'interroge sur les rêves et elle se demande si la dimension étrange ne serait pas une préparation à l'après-vie, la libération de l'esprit qui voyagerait aussi étrangement que l'on fait dans nos rêves. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est joliment... ça me touche à deux titres, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Romaine, qui va donc être dans le spectacle des Filles de Joie, a fait tout un spectacle sur Françoise Hardy avec Pascal Rinaldi. Et d'ailleurs, elle va chanter du Françoise Hardy à Maz durant le festival. Je pense que c'est assez juste. Moi, je me réjouis du moment où je vais pouvoir retourner dans cet espace avec moins de contraintes. Parce que très étrangement, depuis la mort de mon père, ça a fait 9 ans en août, il y a quelque chose qui s'est brisé dans ce lien avec un au-delà. Je ne sais pas si on peut appeler ça un au-delà, mais avec quelque chose de simple. Avec la présence, par exemple, des anciens, des ancêtres. J'ai un côté assez mystique et assez... Et à la mort de mon père, il y a comme quelque chose qui s'est éteint. Et j'ai hâte de retrouver la porte, voilà. Hâte, vraiment hâte.
Je vous propose de retrouver Françoise Hardy avec cette magnifique chanson « Contre vents et marées ». C'est une très belle chanson de Françoise Hardy pour les paroles et la musique d'Eric Clapton. Je trouvais que les paroles vous correspondaient bien, Manuel Amoury, mais on n'a pas écouté. On a parlé,
non, mais
parlé,
j'ai honte, hein, mais je suis vraiment bavarde.
Non. Je vous dis juste quand même la dernière phrase, restez vrai.
Ah, ouais.
Ça vous correspond.
Ouais. Alors, des fois, ma sœur, elle me dit, c'est bien de rester vrai, mais l'autre aussi est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même tenir un peu compte de l'authenticité de l'autre. Et
on n'est pas tout seul. Hein.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Donc, c'est bien de dire ce qu'on pense, mais voilà, l'autre aussi a le droit de penser et de se taire. Donc, voilà, c'est tout un équilibre à trouver. Et parfois, la spontanéité, elle a ses revers aussi.
Mm. Parlons un tout petit peu des voyages. Vous avez parlé du Japon, des États-Unis. Vous êtes une grande voyageuse. Qu'est-ce qui vous attire dans le voyage ?
La liberté.
On y revient ?
Oui. En fait, c'est drôle parce que c'est une des questions dans les correspondances qu'on a échangées avec les filles. Romaine, elle pose la question, quand est-ce que tu te sens vraiment à la maison ? Et Forma, elle répond que... Bah là, je fais un peu du teaser, mais Forma, elle parle de ses chats. Elle dit, moi, dès que je suis avec mes chats, tac, je me sens à la maison. Frida, elle est dans quelque chose peut-être un peu plus ésotérique. Et moi, je dis, c'est quand je suis en voyage, en mouvement. Dès que je prends un vol, ou dès que je... Mais même si je vais faire un reportage dans le Jura bernois, comme je viens d'en faire un, je suis chez moi. Voilà. Dans ce mouvement, je me sens chez moi. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Comment est-ce que vous faites votre valise ?
Oh mon Dieu. Eh bien, je range ma valise comme ma tête.
Oula,
donc autant
oula.
Vous dire que voilà, que c'est assez complexe, mais que malgré tout, je m'y retrouve. Ça veut dire que c'est un chaos organisé, mais effectivement, c'est pas simple de voilà. Par exemple, j'ai eu quelques compagnons, voire plusieurs. Je n'ai jamais préparé leur valise. Voilà. Et je pense qu'ils ne m'auraient jamais permis de préparer leur valise. Voilà. Donc c'est du chaos un peu organisé.
Elvio,
est-ce que ça vous tient à cœur lors de vos voyages de rentrer toujours avec un souvenir?
Ah ouais, ouh là là. Qui c'est qui vous a dit ça?
C'est venu spontanément.
Non. Je suis sûre que quelqu'un vous a dit des trucs.
Ah non. Non.
Ah ouais. Non. Alors, non. Parce que effectivement, j'ai une petite. Comment dire ? C'est pas un truc que je prends pas des souvenirs, je prends des objets qui ont eu du sens à un moment du voyage. Alors, c'est des fois des trucs totalement insignifiants, parfois ça a des choses un peu plus importantes, mais c'est vrai qu'en vieillissant, je commence à me dire, ben voilà, tu vas devoir commencer à distribuer. Ce que je fais de plus en plus régulièrement, d'ailleurs mes nièces, elles disent toujours, ça y est, ces cadeaux de Noël, ça va être encore ces trucs qu'elle est en train de vider sa baraque, elle nous offre des trucs. Eh bien oui, les filles.
Pavillon Nomade à ses quartiers, ici à l'hôpital de Malévo, tous les jeudis entre 15h30 et 16h30, mais aussi dans le monde entier, puisqu'on parle de voyage, puisque vous pouvez écouter et réécouter les émissions quand vous voulez, en allant sur le site www.pavillonnomade.ch. Et teasing, Pavillon Nomade se balade aussi. Et la prochaine sortie, bien, c'est le 5 septembre au cave du manoir de Martigny pour une conférence décalée avec Lucas Fox. Je ne sais pas si vous connaissez Lucas Fox.
Le nom, ça me dit quelque chose.
C'est le cofondateur du groupe britannique Motorhead.
Ah mon Dieu, je connais mon nom. Bah, dis donc.
Ça va ravir Elvio, puisqu'on va faire une plongée au cœur du Swinging London.
Oh là. Ouais,
bon. Donc, si vous nous écoutez, eh bien, venez nombreuses et nombreux le 5 septembre.
Magnifique.
Pour cette conférence, je pense complètement décalée. Chaque jeudi, on retrouve la chronique animalière d'Eliane. Aujourd'hui, Eliane, vous nous parlez de quel animal ?
Je vais vous parler de l'hippopotame. Pas vraiment un animal de la ferme.
Ni de compagnie.
Cet animal est un mammifère subaquatique qui vit en Afrique subsaharienne. Son habitat sont des fleuves, des étangs et des lacs d'eau douce. Il existe également des hippopotames de mer, mais ça c'est plutôt en Nouvelle-Guinée. La durée de leur vie est à peu près de 40 à 50 ans quand même.
Mon Dieu.
Ils pèsent 4 tonnes pour monsieur et 1,5 kg, je vais dire. 1,5 tonne pour madame.
Qui est au régime, bien sûr.
Bien sûr. La durée de... voilà, ça je vous l'ai déjà dit. La durée de gestation est de 8 mois. Et le bébé pèse déjà 30 kilos à la naissance.
C'est du lourd.
Un beau bébé, hein. Mais il faudra, par contre, 5 à 6 ans pour qu'ils deviennent adultes. Ils n'ont pas de prédateurs. Leur peau est épaisse et glabre, mais très fragile au soleil. Sa particularité mignonne, c'est ses toutes petites oreilles. Sa nourriture est composée de plantes aquatiques, quelquefois des os, donc on peut dire qu'ils sont un peu carnassiers.
Un ou deux touristes.
Par exemple, vaut mieux pas se faire charger par un hippopotame,
non, c'est pas une bonne idée.
Parce qu'il peut courir jusqu'à 30 km/h sur plusieurs mètres. Hein.
Puis
il est très aigri, il est très beau, moi je le trouve beau cet animal, mais il a un caractère, comment dirais-je, de cochon.
Ah, hein, ouais, je vois le genre. Hein.
Il ne sait pas nager.
Il flotte, hein?
Non,
4 tonnes.
Oui, c'est vrai. Pour les cargos. Hein, ça.
C'est pour ça qu'il est toujours dans une eau à sa hauteur.
Ah.
Et il vient respirer toutes les 5 minutes.
Comme ma sœur, ouais.
À peu près. Et il y a quelque chose qui a absolument...
Non, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Pardon, je suis en train de vous saccager votre chronique.
Un peu, Manila, un peu.
Non, il faut vous imposer. Là.
Dans l'eau, il est très agile. C'est clair, sur Terre, c'est pas un Usain Bolt. Hein. Il dort environ 10 heures par nuit.
Ah, oh, le chanceux.
Quel rêve. Ah oui.
Avec 3 heures de sieste.
Mais non.
Pendant ces moments de repos, il se passe un phénomène extraordinaire. Donc l'hippopotame dort et automatiquement, son pied va taper le sol et remontera à la surface, tout en dormant.
Ah, pour pas se noyer.
C'est une sécurité.
Pour pas se noyer.
Oui, c'est comme nous, on respire, on tape pas les pieds quand on respire, mais je veux dire, c'est quelque chose de comment faut dire,
d'instinctif.
Voilà, merci Marie-Claude. D'instinctif.
Ok, pour pas se noyer, en fait, c'est ça.
Pas vraiment, mais pour respirer surtout.
Ah voilà, ouais, c'est vrai, en même temps, ça peut
ça
aider.
Ça peut aider de respirer,
ouais,
hein.
Ouais, 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 tout à fait.
Alors, par rapport à ces heures de sommeil et tout, j'ai envie de vous dire, elle est pas belle, la vie.
Ah, oh, oui.
Oh. Ouais, elle est pas mal. Oh. Elle est pas mal.
Oh là.
Franchement.
Non, il faut qu'il nous file ses médocs. Hein.
Faisons un petit tour de table par rapport aux animaux, puisqu'on était avec l'hippopotame chez Liane. Vous, Manuela, c'est le chat?
Ah ouais, moi, je suis une red dingue de chat, ouais. Ouais, ouais. J'arrivais plus. Mais en même temps, j'ai jamais... En fait, les chats sont venus s'installer chez moi. Mais vraiment, ça veut dire dans le sens où j'avais jamais pris un chat. Mais j'en ai eu un premier, Lily Marlène. Je ne sais pas si c'était un mâle ou une femelle. Alors, je l'appelais Lily Marlène. Je trouvais qu'elle avait une porte de tête. Là, j'aurais pu le voir fumer des cigarettes longues. Et c'était un mâle à la fin. Donc voilà. Ouais. Et lui, malheureusement, il a disparu. Et ça a été un tel chagrin que je pensais que je n'allais pas m'en remettre. Et puis maintenant, j'en ai un autre petit qui s'est glissé chez moi, qui s'appelle Tiggy. Qui est volage, qui est un vrai chat, quoi. En gros, il vient, il mange, quand il pleut, il rentre. L'homme idéal.
Et vous, Cathy?
Alors, nous avons eu un chien pendant 15 ans, qui malheureusement s'en est allé l'année dernière. Et sinon, j'aime beaucoup les chats. On a toujours eu des chats dans notre enfance.
Ouais, et puis dans votre jardin, vous avez tout.
Ah oui, mais bon, on a un peu la nature qui vient vivre dans notre jardin. Voilà,
c'est ça ici aussi, un peu comme dans le parc de Malévo, ouais. Où il y a les oiseaux, il y a les renards qui passent et
tout
canards,
ça. Ouais.
Les
canards.
Les fonds, elle a eu un fond.
Un bébé qui est né dans le
joli.
Jardin.
Oh, c'est très joli,
ça. On l'a gardé
ça.
Pour la journée pendant que la maman allait
un petit
bambi. Se nourrir.
Elvio.
Alors, oui, alors moi, justement, j'aime tout ce que les gens, la plupart des gens n'aiment pas trop, c'est-à-dire les serpents, les insectes,
voilà.
Les araignées.
On va passer à Karine. Et ne me dites pas la même chose, parce qu'autrement...
Non, pas du tout, pas du tout. Par contre, ma fille est fan de serpents.
Voilà,
aussi.
Ok. Ah.
Mais non, alors moi, ça a été les chats aussi depuis petite. Et je trouve cet animal incroyable parce que j'ai l'impression qu'il ressent nos émotions. Et comme un chien peut ressentir aussi les émotions, mais le chat, pour moi, mes parents m'ont toujours dit, quand j'étais petite, c'est un animal qui me calmait. Qui me tempérait quand j'étais peut-être en colère ou des choses comme ça.
Ouais.
Et du coup, ça reste les chats.
Carlos ?
Bon, bien sûr, moi, c'est le chien.
Le chien ?
Oui, c'est le chien.
Quelle race ? Ouais.
Bon, ma fille, là, on est un staffy.
Ouais.
Et puis moi, bon, ça serait un dans les gens, quoi.
Ouais.
Pas trop grand, pas trop petit. moyen.
Et vous, Paolo?
Alors moi, je suis fan des bulldogs français.
Ah.
On a toujours eu un bulldog français.
En famille?
Oui, oui.
Ouais.
Et puis, bah, ils sont têtus, ils sont un peu comme les hippopotames. Là. quand ils se roulent dans la boue, c'est la même chose. Et puis, voilà. Donc, mais ils ont un regard très humain. Et puis, ben, on a comme ça, on s'habitue, et puis voilà.
Ouais, donc ça veut dire que si on a eu plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs chagrins, alors.
Oui.
C'est
oui.
Horrible,
on
hein.
A déjà eu quelques-uns, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Elvio ?
Oui. Et vous, Marie-Claude ?
Moi, j'aime beaucoup les chats, mais j'aime beaucoup les chiens aussi. Et j'ai un chien, c'est la race un peu supérieure du bulldog, c'est un boxer.
Ah, oh, waouh!
Et en l'occurrence, c'est une boxer qui s'appelle Daika, qui a 4 ans. Et je pense qu'elle va rester une éternelle adolescente.
Ouais.
à mon avis, je ne vais pas pouvoir, elle ne va pas grandir. Elle est grande, hein, elle est grande sur pattes, mais alors c'est une ado. C'est une ado, il faut faire avec une ado. Mais c'est très... voilà.
Est-ce que vous cuisinez pour elle?
Non, je ne cuisine pas pour elle parce qu'il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin.
Ma sœur a cuisiné.
Ah oui? Non, moi, je n'ai pas cuisiné pour elle. Quoi. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais je fais d'énormes balades avec elle et c'est un vrai bonheur de l'avoir, même si ce n'est pas évident en ville d'avoir un grand chien.
Non, mais, ça, c'est vrai.
Mais franchement, c'est chouette parce que voilà, c'est des amours. Les animaux, quoique.
Il y a des chats.
Quel qu'il soit.
Il y a des chats ici? Oui.
Oui, il y a des chats.
Il y a des chats?
Oui, oui.
Ouais. Qui sont libres ou...
Moi, je les ai vus libres, hein, je crois, d'après Elvio.
Alors oui, ils sont libres et ils viennent même dormir avec nous parfois quand ils sont hospitalisés. Les personnes, ouais, ils vont dans les chambres. C'est assez génial. Mais on n'a plus revu depuis un moment. On n'a jamais suscité des mâles ou femelles. Et il y a Cookie qu'on n'a plus revu depuis un petit moment. C'était le chat noir et tout. Donc voilà.
Ouais. Mais des fois, ils reviennent, hein, 3 mois plus tard.
Ouais.
Oui, Carlos.
Il y a un très beau chat au châtaignier. Donc.
Excellent. Si vous nous écoutez au châtaignier, ramenez-nous le chat. Alors, le chat,
pas besoin de le ramener, il vient tout seul. Il vient tout seul.
Peut-être que s'il nous entend, il va venir.
Il sort, il rentre, il mange.
Comment il s'appelle, hein?
Ah, je ne sais pas son nom.
On pourrait le baptiser.
Châtaigne.
Non, je l'ai déjà baptisé.
Châtaigne.
Bon, le temps file vite. Manuela, j'ai encore. Quand même, j'ai envie de partager encore un moment avec vous. À propos des voyages, on en a parlé. Et puis, vous dites, j'ai lu dans un article que vous revenez toujours au pied de la Maya.
Ouais,
c'est quoi la Maya?
Alors la Maya, c'est notre Cervin dans le Val d'Airain. On est très très fiers. C'est une montagne sur laquelle mon oncle Maurice, qui était guide de montagne, hein, c'était un peu le héros de la famille, a grimpé. Et puis ensuite, ça a été aussi un peu la montagne de mon père. On y est allé un peu autour. Mais c'est vrai aussi que pour nous, quand on est à la montagne, on n'a pas forcément envie de leur grimper dessus. Au fond, c'était plutôt les touristes qui venaient à la montagne, qui grimpaient sur les montagnes, et nous, on les regardait avec beaucoup d'admiration. Et ensuite, c'est devenu une montagne un peu attachante pour mon père. Et quand il était sur son lit de mort, à l'hôpital de Sion, il avait une vue sur la Maya. Et depuis Sion, on voit vraiment sa pointe. Et papa avait toujours dit, vous verrez, un jour, ça va s'éteindre. Et il est mort en août. Et la Maya s'est éteinte. Voilà. Alors, on a déposé un bout de Maya miniature sur sa tombe. Voilà.
Oui, il y a des beaux symboles, des belles images. Et il y a aussi ce documentaire, La montagne des géants, oui, que je vous conseille de regarder, qui se trouve sur Play RTS notamment. Il est émouvant et délicat.
Merci.
À l'image vous êtes, Manuela.
Je suis touchée, merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un documentaire qui a beaucoup compté pour moi. Parce que c'était faire lien entre deux hommes qui, au fond, nous posent à tous la même question par rapport à la liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour être libre? Il faut faire des choix. Et mon père a choisi la communauté, et Denis Berthollet, qui était un immense himalayiste, photographe et cinéaste, lui, il a choisi vraiment sa liberté et la montagne. Mais l'un et l'autre, en faisant ce choix, a dû renoncer à tout le reste. Et je pense que leur liberté, ça a été de faire un choix. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris en faisant ce documentaire.
Oui, Elvio.
J'aimerais aussi vous proposer, je viens de découvrir en fait une série, bon, ça fait quelques temps, de RIB, qui rend hommage en fait aux Valais. Mm-hmm. Et le premier tome s'appelle Tu seras reine.
Oui.
Et, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, je connais.
Ah, voilà.
Il vient de RIB. Ouais.
Voilà, exactement. Puis là, du coup, il vient de sortir La promesse. Donc, si jamais.
Ah, ok. Et La promesse qui promet quoi?
C'est la suite de Camille, en fait, de
D'accord.
sa vie. Voilà. Il
okay.
y a eu la troupe, donc la troupe des glaciers. Puis maintenant, le dernier, La promesse. Et je vous invite à.
Ok, merci.
À le découvrir.
Merci Manuel Amoury pour ce beau moment passé en votre compagnie. Merci à vous toutes et tous qui étaient autour de la table. Merci à nos complices Julien et Dominique. Et on va se quitter avec la chanson qui accompagne les images de ce magnifique documentaire La montagne des géants.
Ah, génial.
Une chanson de Pascal Rinaldi qui s'intitule Laisse aller. Thank you.
laisse aller, laisse venir l'avalanche. Ce n'est que l'âme qui s'épanche, laisse aller. Laisse aller, même si c'est amer à boire. Faut y goûter juste pour voir. Laisse couler, laisse couler. Dans le fond, ce qui nous retient, c'est de ne lâcher jamais rien. Laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Laisse t'envahir les flots. Telle Ophélie au fil de l'eau. Laisse filer, laisse filer. Laisse aller, laisse aller. Laisse déferler la vague. Briser la digue d'un coup de dague. Laisse saigner, laisse saigner. On dit qu'au fil des jours qui passent, les mots s'effilent, les mots s'effacent. Laisse aller à la dérive des oiseaux, comme sous le vent le roseau. Laisse plier, laisse plier. Laisse aller, tu finiras par t'y faire, même d'accepter le désert. Laisse filer, aucun masque, aucune armure ne peuvent cacher la fêlure. Laisse aller, et au jour du dernier voyage, vers l'autre rivage, s'en aller, laisser aller.